On part pour Jérusalem, on leur retrouve Cathy Bisraor. Bonsoir Cathy.
Bonsoir Bernard.
Cathy, on va parler ce soir d'une impression qui est que les Israéliens sont en train de totalement péter les plombs. Et je vais dire singulièrement l'opposition israélienne. Alors je ne sais pas par quoi on va commencer, mais il y a deux éléments qui déjà chacun en soi devraient faire une émission. La première, c'est des Israéliens qui, pour la première fois, j'en ai vu d'autres, peut-être. Je réfléchis en vous parlant, on peut battre, on peut dire un peu non, c'est pas si sûr que ça, il y a eu Sabra et Shatila. Mais enfin, d'une manière aussi organisée, foutent en l'air, ou font tout pour foutre en l'air, le voyage du Premier ministre israélien à New York. On rappellera, alors ils l'ont suivi partout, on en a beaucoup parlé sur Radio Shalom, à son hôtel, diffusion d'images devant l'ONU, ne croyez rien de ce que dit ce corrompu. Si vous voulez, comme on a réussi à faire encore mieux pendant les fêtes de Kippour, d'après moi, bah déjà, je vous rappelle, à part Sabra et Shatila, où les gens étaient ulcérés, je ne me souviens pas d'avoir vu faire ça souvent. Bon, il y a toujours quelques... Mais comme ça, jamais. Mais on peut faire mieux. Et donc, hier, il y avait une prière publique qui était organisée sur la place la plus centrale de Tel Aviv, qui s'appelle Dizengoff. Et la municipalité a dit, nous, on est à Tel Aviv, on est des gens de Tel Aviv. Et... On fait pas de séparation entre les hommes et les femmes. C'était la vie ici. Et d'ailleurs, nous, on... Et d'ailleurs, il y a une loi qui nous interdit de le faire. Ça s'appelle discriminer hommes et femmes. D'autres sont venus manifester, évidemment, au même endroit. Et donc ça, en disant, nous, on va faire une prière séparée. Mais on la veut Dizengoff, hein, on la veut pas ailleurs. Il faut que ça soit là, à cet endroit-là. Donc ça se termine en affrontement, bousculade, etc. Le quipou nul de l'année. Mais c'est surtout, on commence par la Catherine. Cathy, pardon. Non, ça revient même. Cathy, est-ce que ce mouvement d'opposition, ils étaient 100 000 encore samedi soir, hein, est en train de s'essouffler? Et donc, comme tout mouvement social qui s'essouffle, il se radicalise? Ou est-ce qu'il y a un pétage de plomb?
Écoutez, Bernard, on m'avait posé tellement de questions à la fois que je vais essayer
On
de
fait
répondre
d'abord
en partie.
Dizengoff et est-ce qu'ils sont en train de devenir dingues? Parce que
Très bien.
l'intérêt
Si vous
d'aller foutre en l'air une
permettez,
prière, je vois pas
Bernard,
l'intérêt.
mais si vous permettez, je veux commencer par Netanyahou.
Ah ouais, d'accord, allez. Alors
Je veux commencer par
Netanyahou,
là. Je vais vous expliquer pourquoi.
allez.
Parce que c'est le plus simple. C'est le plus simple à répondre. Ce que vous racontez, c'est exact. D'accord? Il y a eu, en effet, le voyage de Netanyahou a été accompagné de manifestations énormes autour, pas énormes en chiffres, hein, mais
L'impact.
au niveau médiatique mondial, c'est clair que, on a vu une position israélienne contre Israël. Maintenant, vous savez, l'histoire, elle juge au résultat. Ce voyage de Netanyahou dans l'histoire, OK, est déjà aujourd'hui, d'accord? Il restera non pas sur ces manifestations qui sont très graves en tant que telles, je ne veux pas du tout minimiser, mais ce qui reste de ce voyage aux États-Unis, c'est le dossier saoudien.
Et c'est un
Parce que
succès éclatant. Et c'est un succès éclatant.
si vous analysez ce qui est important, ce sont les médias américains. Si vous analysez les médias américains, il y a un journal israélien qui s'est amusé à faire ça, en fin de compte, la grosse majorité de ce qui s'est passé au niveau du focus, d'accord? Ça n'a pas été le voyage de Netanyahou en tant que tel. Ça a été ce qu'a dit le prince saoudien quelques minutes ou quelques heures avant l'arrivée de Netanyahou aux États-Unis, à savoir que pour la première fois de sa voix, en direct, on a entendu sur Fox News qu'il était en train de négocier une normalisation avec Israël. Et évidemment, c'était du pain béni pour Netanyahou qui a utilisé ça dans son discours à l'ONU, etc. Et donc, si vous voulez, l'histoire se rappellera que ce voyage, ces quelques jours, si vous voulez, de présence de Netanyahou aux États-Unis, elle lance officiellement un processus qui a débuté déjà depuis quelques mois, c'est exact, mais l'officialisation de ce rapprochement historique, okay, le plus historique à mon avis depuis la création de l'État d'Israël en 48, pour plusieurs raisons,
Même comme David?
il a, oui,
Plus.
plus parce que si vous voulez, je vais vous dire. À mon avis, il y a des avis différents, hein, sur est-ce que c'est l'Égypte ou est-ce que c'est l'Arabie Saoudite. Mais si vous voulez, aujourd'hui, okay, où on voit l'Égypte comme une évidence, comprenez bien que si l'Arabie Saoudite, qui pendant des dizaines d'années à représenter le fondamentalisme, à représenter l'islam,
le Hamas,
à représenter le Hamas, à représenter les profondeurs du non à Israël. C'était l'Arabie Saoudite, d'accord ? Encore une fois, il faut être prudent parce qu'on n'est pas encore dans un accord, mais en tout cas, on est, si vous voulez, dans une situation où les Saoudiens, le numéro un saoudien, vous dit lui-même, je veux un accord avec Israël. Plus que ça, okay. Maintenant, est-ce que les événements qui vont venir dans les quelques semaines va confirmer cet espoir-là ? Il faut l'espérer. Mais si vous voulez, à mon avis, c'est ça qu'on va se rappeler dans l'histoire du voyage de Netanyahou. Voilà ma réponse sur l'histoire.
Alors, deux choses. La première, c'est que ça va rester, Catherine, parce que c'est fait.
Cathy.
À partir du moment où vous avez le prince héritier qui dit ouvertement, full caméra, c'est-à-dire il est plein écran, et il dit « Ah mais non, mais on n'a pas du tout arrêté les discussions. Chaque jour nous amène un peu plus près d'un accord de normalisation avec Israël. » Ça, c'est pas ça. On attend quelque chose qui vient. Ça, c'est la normalisation.
Je suis d'accord avec vous. Mais regardez la normalisation, les deux informations que j'imagine vous avez certainement dû diffuser aujourd'hui. Vous avez deux ministres israéliens, le ministre du Tourisme et un autre ministre dont on ne connaît pas le nom, mais on le connaîtra apparemment demain, qui voyage en Arabie Saoudite, et cette fois-ci, pour la première fois, parce qu'il y a eu déjà beaucoup de ministres qui ont voyagé en Arabie Saoudite, il y a certains qui disent même que Netanyahou est en Arabie Saoudite, mais ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est la première fois que des ministres du gouvernement israélien arrivent officiellement et sur tapis rouge à Riyad. Okay, vous avez raison de dire que la normalisation, elle est déjà en marche. D'accord, et donc, voilà pour être... Maintenant, sur le deuxième sujet, là, malheureusement, je viens de donner un autre éclaircissement, mais je suis d'accord avec vous, ok, qu'il s'agit, cette affaire de Kippour, ok, d'une affaire qui, à mon avis, dramatique, très, très grave, ok, je sais même pas dire qui est responsable, ok, je suis pas sûre qu'il y en a qui sont pas responsables. Je pense que nous sommes tous responsables, israéliens, d'accord, de cette dégradation catastrophique au sein de la société israélienne. Mais à la fois, en même temps que ce que je vous dis, qu'on est tous responsables, je peux également vous dire, et je suis sûre que chaque auditeur qui nous entend et qui soit venu en Israël comprendront ce que je dis. À mon avis, il y a plus que 80% de la population israélienne, plus peut-être même 90% de la population israélienne qui en ont assez de toute cette histoire et qui demande une accalmie. Et le problème, si vous voulez, c'est que la voix médiatique, okay, elle est dans les mains de ces 10%.
Je suis entièrement d'accord avec vous.
Extrémistes de des deux côtés, ok, des deux côtés, moitié moitié.
Moitié moitié. Et on va expliquer vous et moi dans une minute pourquoi c'est des deux côtés, parce qu'on a vu la même chose. D'abord, j'ai expliqué cet après-midi à un jeune journaliste de 20 ans. Je lui ai dit, tu sais, tu connais pas forcément Israël comme nous, qui faisons ça depuis longtemps. Dizengoff et Kikar Amdina, ça fait pas tout Israël. Hein. C'est deux. Alors, c'est très choquant. Mais c'est pas Israël, c'est Givatayim, c'est Kfar Yona, c'est Naharia, où il se passe rien. C'est Kfar Saba. D'accord. Ceci étant, là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la mairie vient, et tout est réuni dans cette histoire, Cathy. Cathy, toute l'histoire, depuis le début de la réforme, est réunie sur ces deux petites places israéliennes. Tout. La réforme judiciaire, la Cour suprême, le droit, la légalité, l'interdiction de prier en public, la discrimination entre les hommes et les femmes, la religion dans la rue, tout, les caractères juifs de l'État, il y a tout. Parce que, qu'est-ce que dit la mairie? Elle dit, moi déjà je fais un geste, je suis sympa, je ne suis pas obligé de faire une manifestation publique, j'accepte, mais il y a une loi. La loi, elle dit qu'on n'a pas le droit de séparer hommes et femmes. Si je fais ça aujourd'hui, place Dizengoff, demain je vais l'accepter dans les bus. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un Israël comment? Nous on est à Tel Aviv, on fait un truc... voilà, on ne demande pas, c'est pas à nous de demander aux gens de séparer hommes et femmes. Qu'est-ce que font les gens qui sont plus religieux qu'eux? J'ai regardé, il n'y a pas de rarité. Très peu, il y en a un ou deux. Qui sont plus religieux qu'eux, ils disent, ah non, nous on veut séparer, et bien sûr, pour bien que ça continue, pour bien que tout le monde continue à se détester, c'est pas, ils ne veulent pas manifester Dizengoff Center, ils ne veulent pas être à 150 mètres, ils ne veulent pas être à Machane Yehuda, ils ne veulent pas être à Shuka Carmel, ils veulent être sur la même place. Et il s'étonne qu'après, ça se termine avec des bousculades. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Les deux côtés, qu'est-ce qu'ils cherchent?
D'abord, je pense que, vous savez, quelquefois, il faut que, et c'est vrai, chacun peut le connaître dans la vie personnelle de chacun, d'accord? Il faut que quelquefois, qu'il y ait des crises terribles, okay, pour essayer après de trouver des solutions. D'accord. À mon avis, ce qu'on est en train de vivre en Israël depuis quelques mois maintenant, parce que c'est en fait la même chose, l'histoire de la réforme, ce qui s'est passé à Kippour, c'est en fait la même chose. C'est deux visions de l'État d'Israël. Et jusqu'en 2023, ces deux visions de l'État d'Israël ont réussi à coexister. Il faut dire la vérité, il n'y en a pas un qui a imposé à l'autre. Okay, il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de liberté du monde religieux, il y a également beaucoup de liberté du monde laïque. Je vous rappelle que le président de la Knesset est un homosexuel. Je vous rappelle que les lois, il n'y a pas de loi qui oblige à respecter ni le Shabbat, ni la séparation, ni rien du tout. C'est-à-dire que véritablement, il y a une situation où chacun avait une possibilité de vivre l'un à côté de l'autre. Et à un moment donné, ça a éclaté. Et cet éclatement-là, à mon avis, il peut également devenir positif si chacun sait tourner, si vous voulez, cette brûlure, hein, cette scission terrible au sein de la société israélienne dans un vrai dialogue. Et c'est pas seulement, si vous voulez, des mots. C'est vrai qu'il y a des problèmes qui sont restés insolubles. Et peut-être que là a été une erreur, parce que le sentiment, par exemple, ok, de beaucoup de populations, qu'il y ait une partie de la population qui ne fasse pas l'armée, c'est quelque chose qui n'a jamais été réglé et qui fait mal à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Le fait, si vous voulez, et de l'autre côté, d'une manière identique, d'accord, le fait qu'il y ait beaucoup de choses, par exemple, je vous donne un exemple, qu'au sein de l'armée israélienne, il n'y ait pas eu de réponse vraie, véritable, aux religieux orthodoxes qui ont voulu s'intégrer dans l'armée israélienne, là aussi, si vous voulez, c'est quelque chose d'inacceptable. Je vous donne le même sujet, vous montrer les deux images. Et donc, il faut aujourd'hui trouver des solutions. Mais pour l'instant, ce que l'on est en train de vivre, c'est vraiment l'explosion. C'est ce qu'on vit. Alors, une fois, vous voyez ce qui se passe à la rue Kaplan, et l'autre fois, vous voyez ce qui se passe à Kippour, et ensuite, vous voyez ce qui se passe autour de la problème des téfilines, oui, les téfilines, non, les téfilines en public, de Chabad, etc. Et à mon avis, tel que je vois l'histoire, on n'est pas encore dans la solution. On est aujourd'hui dans la phase de l'explosion. Et je pense, tel que je vois l'histoire, que cette phase de l'explosion, elle va nous accompagner, à mon avis, encore un certain nombre de temps. Parce que chacun, si vous voulez, a besoin de faire exploser, d'exprimer, si vous voulez, le drame qu'il a vécu et le mal qu'il a vécu depuis des années et des années. Maintenant, c'est vrai ce que vous dites, que c'est pas tout Israël, Dizengoff. Israël, c'est autre chose. Regardez l'endroit où j'habite, par exemple. Les prières ont été des prières où vous avez vu laïcs et religieux, tout le monde ensemble, et il n'y a eu strictement aucun problème. Et c'est vrai dans la grande majorité de l'État d'Israël. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un malaise. Et aujourd'hui, si vous voulez, ce malaise-là, ce qu'on voit éclater, et à mon avis, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de ce malaise, laisser éclater ce malaise, et à la fois, tout à la fois, si vous voulez, essayer d'ouvrir vraiment un dialogue et de trouver des solutions.
Alors, d'abord déjà, il faut savoir que même Benjamin Netanyahou, en personne, a déjà manifesté contre la politique israélienne à l'étranger. Bibi, hein, pas ses supporters, lui. On a des images qui circulent où on le voit dire « c'est légitime, c'est normal ». On le voit, il y a plusieurs interviews où il manifeste contre les accords d'Oslo. Il dit « là, Israël est en danger, je dois le faire », etc. Donc, Bibi a manifesté contre Israël à l'étranger. Ceci étant, Catherine, en général, il y a une idée israélienne qui fait que les Israéliens gagnent les guerres. Cette idée, c'est à partir du moment où il en touche à la sécurité, au bien commun, à l'étranger, il y a un moment où on sait tous que ça, c'est une ligne rouge. Donc le coup de New York, où des gens de gauche agissent comme des Netero et Carta, foutent en l'air le Premier ministre, Vous avez raison de dire que c'est moins important que le prince héritier saoudien. Mais toute la force d'Israël, elle repose là-dessus. C'est cette idée que tout d'un coup, quand il en vient à défendre la sécurité d'Israël, allez, tout d'un coup, on sait se taire. Non, là, maintenant, je me tais. Non, je touche pas. Le gars dans le tank à côté de moi, il est religieux. Moi, je suis pour la Gay Pride à Tel Aviv. Tout d'un coup, je touche pas. Parce qu'on est tous dans le même bateau. Et ça a été battu en brèche. C'est pareil avec Kippour. C'est
regardez,
vrai. Allez-y, ouais,
Bernard, je veux dire, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave, et vous l'avez touché avec l'histoire des tanks, d'accord. À mon avis, ce qui est beaucoup plus grave que ce qui s'est passé à New York, véritablement, je ne pense pas que ça soit, c'est ce qui se passe dans le dialogue autour de Tsahal en Israël. Parce que si vous voulez, là, c'est la ligne de rupture. Là, c'est le danger stratégique sur le long terme. C'est vrai qu'on entend et on a entendu hein, que hier, il y a eu une grosse opération, une explosion énorme en Iran. On s'imagine qui c'est qui est derrière cette explosion. Ça prouve que oui, l'armée de l'air israélienne, apparemment, elle fonctionne toujours.
Elle a gardé de beaux restes. Mais
le fait, si vous voulez, que pour la première fois depuis la création de l'État d'Israël, publiquement, vous avez des officiers, même s'ils ne le feront pas au bout du compte, mais ils l'ont dit officiellement, ils le disent encore aujourd'hui, qu'ils ne serviront pas ce gouvernement ou un autre gouvernement, etc. Ça, si vous me dites quel est le danger existentiel de l'État d'Israël, c'est celui-là. Ouais. Parce que, en fait, Israël existe, il faut le dire, ok. Israël existe, on est au Moyen-Orient, ok, l'Arabie Saoudite, ok, mais pourquoi aujourd'hui on parle de l'Arabie Saoudite? Pourquoi on a parlé de la paix avec l'Égypte? Pourquoi on a parlé de la paix avec la Jordanie? Parce qu'Israël a gagné des guerres et parce qu'Israël a une force dissuasive, c'est uniquement pour ça. Si Israël était faible, il n'y aurait ni Égypte, ni Jordanie, ni Arabie Saoudite. Et donc, si vous voulez, pour la première fois de l'existence de l'État d'Israël, c'est Tsahal qui a été mise en question. Je ne porte pas un jugement, Khazer Ali, là, sur les officiers qui ont... Mais le fait est là, si vous voulez. On a entendu pour la première fois des officiers de haut rang de l'armée israélienne, pas seulement les pilotes, hein, les officiers des unités d'élite sur lesquelles en fait, on tient la sécurité de l'État d'Israël, les grosses unités d'élite de l'armée israélienne, qui ont dit, eh ben on n'ira pas. Eh ben, on n'ira pas sur le champ de bataille. C'est ce qu'ils ont dit, en fait. Et c'est ce qu'ils continuent à dire aujourd'hui. Et si vous voulez, là, à mon avis, il y a une explosion, un danger explosif pour la société israélienne. Maintenant, qui est responsable de ça? D'accord? Vous pourrez dire c'est eux, c'est nous, etc. Aujourd'hui, on a des dirigeants qui sont les dirigeants du gouvernement et les dirigeants de l'opposition. Et je pense que ce que je vous dis, je crois que c'est la vie de beaucoup, beaucoup d'Israéliens, qui soient de gauche ou de droite, les 80% dont je vous parle, qui en veulent autant aux dirigeants du gouvernement qu'aux dirigeants de l'opposition. Comment n'arrive-t-il pas, ok, à faire entendre la voix des 80%? Les 80% de la société israélienne, ils en ont marre de cette histoire. Ils veulent que cette histoire s'arrête et qu'on retourne à la base, au point de départ, à savoir, ok, il y a toujours eu 12 tribus, il y a toujours eu des avis différents, mais on est un peuple et une unité, un Tsahal. Et aujourd'hui, ça a été brisé et la responsabilité, elle en vient aux dirigeants, l'opposition, le gouvernement et le président Herzog. Il faut reconnaître que pour l'instant, ni les uns ni les autres.
Le président, franchement, le pauvre, ça serait.
N'ont retrouvé l'intelligence, malgré que ce sont des dirigeants de tous les côtés, aussi bien de l'opposition que du gouvernement, qui sont des dirigeants, n'ont pas trouvé le moyen d'arriver à s'asseoir et d'arriver à arrêter cette dégradation de la situation israélienne. Et qui, pour. C'est une petite histoire. Si ça ne s'arrête pas, ça va aller de pire en pire. Et je crois qu'encore une fois, les 80% de la société israélienne, des Israéliens, ils attendent de leurs dirigeants qu'ils mettent un terme à cette situation.
Ah. Mais d'ailleurs, autant Benny Gantz que Benjamin Netanyahu donnent l'impression d'être otages de leurs supporters, soyons francs.
Je suis absolument d'accord avec vous. Ouais. Et c'est ça qui est inacceptable. Parce que Benny Gantz, c'est clair, d'accord. Je dirais même Benny Gantz et Yair Lapid. Parce qu'à mon avis, même Yair Lapid, okay, qui est plus à gauche que Benny Gantz, même Yair Lapid comprend que toute cette histoire, ça va le desservir. D'ailleurs, on le voit dans les sondages, ça va le desservir. Parce que si vous voulez, qui c'est qui mène l'histoire de cette réforme, d'accord? C'est vraiment, il y a les anti-Bibi connus comme Ehud Barak et comme Lieberman, etc., qui ont des comptes à régler avec Netanyahou. Et puis, vous avez une frange de la gauche israélienne qui mène l'histoire. De l'autre côté de Benjamin Netanyahou, qui c'est qui mène l'histoire? Okay, c'est également des gens qui font partie, si vous voulez, qui représentent pas en fait les 80%, qui sont un groupe de personnes qui ont une vision de l'État d'Israël qui est peut-être qui pensent qu'ils ont raison, mais qui est réaliste aujourd'hui, qui est réaliste politiquement et diplomatiquement. Et ni les uns, ni Benny Gantz et Yair Lapid, ni Benjamin Netanyahou n'arrivent à contrôler leur extrémisme, si vous voulez, les extrémistes de leur camp. Et c'est ça qui est inacceptable.
Quand on dit Israël, on pense par exemple, les 80%, il y en a partout des 80%, il y en a à Jérusalem, il y en a à Tel Aviv. Mais par exemple, Bat Yam, Ashkelon, des gens où on ne fait pas ça. Tout ce qu'on vient de raconter, on ne le fait pas. Ma dernière question, Vous savez que Raph Gay nous a dit vendredi dernier sur Radio Shalom, il nous a dit, vous savez que c'est une Gemara. C'est écrit dans la Gemara, c'est-à-dire donc dans le Talmud. C'est un texte écrit, c'est pas un commentaire. C'est ce que demande la loi. Il n'y a pas de jeûne de Ta'anit, de jeûne de moment où on ne mange pas comme Kippour réussi. S'il n'y a pas aussi des mécréances, s'il n'y a pas aussi des gens qui, des coupables, des criminels, qui sont dans l'assemblée. C'est la Guémara qui dit ça. Et ils sont allés se foutre dessus. Alors que la Guémara leur dit, vous devez être tous ensemble. Et c'est ce sentiment d'amertume. Pourquoi? Pour quelques types qui n'ont qu'une chose à se faire, c'est s'envoyer les chaises à la figure. C'est ma dernière question.
Écoutez, votre dernière question, elle revient un petit peu à ce qu'on vient de dire, vous et moi,
c'est la dernière question.
Bernard. C'est vous et moi, Bernard. C'est en fait, cette Guémara, d'accord, elle représente exactement la réalité israélienne. Dans cette Guémara dont vous parlez, il n'y a nulle part écrit que justement ces minorités, ou c'est entre guillemets mécréants, j'aime pas ce mot mécréant,
Pochaïm. Criminel, okay, c'est pire.
Il n'y a nulle part écrit, ok, que ils doivent avoir le pouvoir décisionnel. C'est exactement le contraire. Si vous prenez l'histoire juive, elle s'est déroulée dans le calme et dans la paix, lorsque ce sont justement les modérés. Regardez l'histoire juive, regardez le Second Temple, regardez ce qui s'est passé ensuite, après le Second Temple, et au cours de l'histoire juive, c'est lorsqu'il y a eu la voix de la modération qui a été entendue que Israël a pu exister, d'accord? Et je pense que cette voie de la modération, là, c'est cette voie vers laquelle on doit se diriger. La grande question, c'est combien de temps que nos dirigeants et du gouvernement et de l'opposition mettront pour arriver à avoir le courage personnel, hein, parce que ça peut être un prix politique à eux, et c'est peut-être ça qu'ils veulent pas faire, mais qu'ils aient le courage personnel, politique, idéologique, d'amener Israël justement vers des solutions et non pas vers des conflits.
Cathy Bisraor, merci pour cet éclairage en direct de Jérusalem. J'espère qu'on n'a pas eu trop de soucis avec le son. Je regarde Arnaud et non, il me dit. Et on se retrouve, Arnaud, c'est notre technicien. Et merci à vous. Et on se retrouve tout de suite pour le forum. Vous donner votre avis sur cette histoire de Kippour, mais sur tout ce que vient de dire Cathy à l'instant. Cathy, excellente soirée à vous.
À vous aussi.